crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons le célèbre Déjeuner sur l'herbe, peint par Édouard Manet en 1863 et refusé par le jury du Salon cette même année. C'est une huile sur toile de 2,8 m de haut, sur 2,64 m de large, et elle est aujourd'hui conservée au musée d'Orsay à Paris. Vous pouvez la voir.
Je n'aurais garde d'omettre un remarquable tableau de l'école réaliste, une traduction d'une pensée de Giorgione en français moderne. Giorgione avait conçu l'heureuse idée d'une fête champêtre dans laquelle, si les hommes étaient vêtus, les femmes ne l'étaient pas. La moralité douteuse du tableau étant rachetée par la beauté de la couleur. À présent, quelques misérables français a traduit cette idée dans les termes du réalisme français. En de beaucoup plus grandes dimensions, et avec l'horrible costume français moderne, au lieu des gracieux vêtements vénitiens. Oui, elles sont bien là, sous les arbres, la dame principale entièrement dévêtue, une autre femelle en chemise sortant d'un petit cours d'eau qui coule à proximité, et deux Français en chapeau de feutre à large bord, assis à même l'herbe verte, avec un air de béatitude stupide. Il y a là d'autres peintures de la même espèce, ce qui permet d'inférer que le nu, quand il est peint par des hommes vulgaires, est inévitablement indécent. Philippe Gilbert Hamerton, Le Salon de 1863.
Des nus dans un sous-bois donc, quatre arbres à gauche et un arbuste tapisse d'un fond d'ombre la perspective de cette partie du tableau qu'il clôture. En regardant ces verts sombres et ces bruns, on sent les odeurs de terre humide et d'eau paresseuse qui se mêlent. Au centre, vivement brossé, une eau boueuse et un coup de soleil dans l'herbe de l'autre côté de la rive. La couleur est étalée sans soin particulier et la touche s'arrondit en colorant le champ vert amande, épousant la trajectoire de la colonne vertébrale de la baigneuse qui se détache devant cet horizon. À côté d'elle, à peine tirée sur la rive, l'étrave pâle d'une typique barque à clin de la basse Seine. Sur un tapis vert peu nuancé sont donc posés trois des quatre personnages de ce curieux déjeuner, tandis qu'un peu plus loin, la jeune femme, légère baigneuse, vêtue d'une longue chemise blanche, plonge sa main droite dans l'eau, tout en plaquant le drap sur son ventre pour éviter qu'il ne se mouille et le sauver de cette immersion. Au premier plan, une femme nue, assise sur une étoffe bleue et jaune, se tient le menton de sa main droite en appuyant sur son coude, sur son genou relevé. Elle nous regarde, sans nous inviter, comme on reconnaît, surpris mais pas gêné, un hôte imprévu. Le peintre, sans doute, ou le regardeur. On ne voit pas sa main gauche qui passe probablement par-dessus le bras de l'homme assis. Il regarde aussi vers l'artiste qui le dépeint. L'ovale de son visage hâlé est souligné d'un léger collier de barbe. En face d'eux, à demi allongé, mêlant ses jambes à celles des deux autres, un élégant tient une canne fine, fine comme une trique. Devant tout cela, une magnifique nature morte, panier bouleversé, qui laisse échapper figues et cerises à coller. Un pain, un flacon d'argent, quelques pêches roulant sur le bleu de la robe délaissée basculent sur le sol. D'autres détails significatifs complètent la scène et nous les rencontrerons dans notre conversation.
Monsieur Manet aura du talent le jour où il saura le dessin et la perspective. Il aura du goût le jour où il renoncera à ses sujets choisis en vue du scandale. Nous ne faisons pas ici un cours de morale appliqué aux beaux-arts. Mais nous ne pouvons trouver que ce soit une œuvre parfaitement chaste que de faire asseoir sous bois, entouré d'étudiants en béret et paletot, une fille vêtue seulement de l'ombre des feuilles. C'est là une question très secondaire. Et je regrette bien plus que la composition elle-même, l'intention qui l'a inspirée. Monsieur Manet veut arriver à la célébrité en étonnant le bourgeois. Alarmer la pudeur de Monsieur Prudhomme est une source de délices pour ce jeune cerveau en humeur de folie. Monsieur Prudhomme ne se scandalise plus aujourd'hui. Il rit de ses jeunesses et met les rieurs de son côté. Ernest Chéneau.
Vous l'avez compris, chers auditeurs, quand on parle de M. Prudhomme, on parle en fait d'un personnage caricatural du 19e siècle, le bourgeois inventé par Henri Meunier à l'époque. Et donc, nous entendons que le fameux Chéneau n'est pas tendre avec Manet. La critique est violente, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis heureux de vous présenter mes invités aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir Ariane Michel, artiste. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, merci.
Vous arrivez de Bretagne ?
Oui.
Il pleuvait ?
Non.
Contrairement à Paris.
Une grande sécheresse.
Quelle chance. Ariane, vous avez été évidemment célébrée par de nombreux prix, récemment le prix du FID à Marseille, je crois.
C'était il y a quelques années, le FID.
Oui, récemment, j'exagère en fait.
Oui, ça fait assez longtemps en fait.
7 ou 8 ans. Oui. Voilà. Vous êtes en train de préparer une intervention à la Fondation Cartier, je crois, dans le cadre des soirées nomades.
Oui, c'est ça.
Et votre monde, en général, consiste à essayer de trouver ce que pourrait être le langage d'autres réalités que la nôtre.
Oui, j'essaye de faire partager des sensations du monde qui ne sont pas des sensations tout à fait humaines, en utilisant en général les outils du cinéma au milieu du dispositif, qui est toujours un peu différent.
Alors vous passez à travers le regard d'animaux, de végétaux, de...
Des morses.
Ah, des morses, oui.
Des morses, des hiboux, du granit, des lichens... Des vagues et
donc
des algues.
Vous devenez tout ce que vous n'êtes pas.
J'essaye.
Et je me souviens d'une très très belle installation vidéo que vous avez faite à l'intérieur même d'une forêt, comme si le film était naturellement à l'intérieur de la nature.
Ah, vous soulevez le mot nature. C'est un mot qui m'envoie quelque part. Mais cette installation, en fait, c'est une soirée performative qu'on organise comme ça, un peu... au milieu, à la nuit tombée, au milieu d'un bois, pas trop loin de la ville, parce qu'il faut pouvoir y aller facilement. Et le public découvre au bout d'un chemin un écran et des bancs et s'assoit. Et découvre, la lumière s'éteint et le film commence comme un film animalier, la nuit. Un renard, un hibou, un hérisson, une grenouille s'approchent, sont surpris par la lumière dans la nuit. Et puis, ils voient des silhouettes entrer, des humains qui marchent, habillés, plutôt bien, au milieu des bois, et qui s'assoient devant un écran. Et dans le film, les animaux, petit à petit, s'approchent de la clairière où les gens sont assis pour regarder le film. Donc, c'est une situation de mise en abîme.
Est-ce que vous pensez que le tableau que nous allons regarder, cet étrange tableau de Manet intitulé « Le déjeuner sur l'herbe » et qui est si connu, si connu mais assez mystérieux quand même, est-ce que vous pensez qu'il était lui aussi dans un bois pas très loin de Paris ? Ou est-ce que c'est une scène de nature selon vous ?
C'est une scène qui questionne la nature, qui questionne le rapport qu'on entretient avec elle. Un ange passe dans le tableau.
Vous voulez dire qu'il y a une sorte de parole suspendue tout d'un coup,
comme c'est suspendue.
Il y a une interruption.
On pourra en reparler.
Alors on va en reparler et pour pouvoir en reparler, on a la chance d'être appuyé dans notre commentaire par Nadège Lanéry d'Agen. Bonjour Nadège, comment allez-vous ?
Mais bien.
Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Je suis aussi.
Vous avez inventé une chaire à l'École normale supérieure.
C'est beaucoup dire, mais j'occupe cette chaire que j'ai effectivement créée. Maintenant, il y a.
Une chaire d'histoire de l'art.
Deux décennies en histoire de l'art.
Et vous êtes une spécialiste de la peinture italienne, essentiellement, du XVIe siècle ?
Oui,
l'art mais Flandre aussi, on peut dire. Hein.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas voyager ?
Pourquoi pas voyager ? Et vous êtes en train de préparer un livre qui sortira en septembre prochain chez Masno Citadel sur les animaux cachés et les animaux secrets. Alors, je voudrais pas qu'on croie qu'on va révéler tout de suite ce qui se passe dans ce tableau, parce qu'on sent que les animaux cachés, les animaux secrets, que ce soit de la part d'Ariane ou de vous-même, sont en train d'approcher de cette petite forêt. Mais peut-être, Nadège, vous pourriez nous dire dans quelles circonstances ce tableau est apparu dans la carrière de Manet, par exemple. Le format est invraisemblable.
C'est un très grand format, donc ça fait partie de ce jeu avec la grande peinture, hein, la peinture d'histoire. Courbet a le même problème avec l'atelier, avec l'enterrement. C'est un grand, grand tableau et c'est un grand, grand sujet, puisque c'est un nu. C'est le deuxième vrai grand nu de Manet, puisque auparavant il a peint une Suzanne, qui était une chaste Suzanne, mais quand même toute nue. En fait, c'est pas une Suzanne, ce fut son premier titre, c'est une nymphe surprise. Et deux ans plus tard, donc, il peint ce nu, entouré de deux hommes habillés, même s'il y a en arrière, en effet, une femme qui est un tout petit peu plus vêtue, le tout dans la nature, et en plus, flirtant avec la tradition picturale, puisqu'il a été question de Giorgione, en effet, c'est-à-dire de la grande tradition vénitienne. Il est question aussi, il peut être question de Raphaël via une gravure renaissante de Raimondi. Donc à la fois, c'est un très grand format, faire plus grand que les peintres ou graveurs de la Renaissance, et affronter les mêmes sujets. Donc le nu, et d'autre part, le nu dans la nature, le nu au fond déjà, en plein air.
Ariane Michel, ce tableau vous paraît surprenant? Est-ce qu'il se donne d'emblée? Est-ce qu'il est à décrypter? Ou est-ce que c'est simplement des nus dans la forêt?
Ah non, c'est évidemment une énigme qui est proposée. D'abord une énigme visuelle, parce qu'il y a un drôle d'événement lumineux. Il y a une femme tout éclairée au milieu d'une clairière sombre, avec tout le monde est sombre autour, et c'est quelque chose d'improbable un peu.
Oui, j'aime beaucoup cette idée que vous avez eue de l'ange qui passait,
ah oui,
de cette scène improbable. Il y a cette lumière, il y a ce coup de lumière qui éclaire cette femme pleinement. Et il y a en effet, on parlait de mise en abîme. Évidemment, on ne pique-nique pas devant le tableau, alors que vous inventez un dispositif où les regardeurs regardent des gens qui regardent dans les mêmes situations. Mais au moins un des hommes regarde celui qui regarde.
On est à une période où Manet, on est en 1863, Manet espère montrer ce tableau, me semble-t-il, au salon, et il va être refusé et va être donc présenté dans des circonstances politiques qu'on va raconter peut-être tout à l'heure, donc de façon assez extraordinaire dans ce fameux salon des refusés. Mais c'est un tableau qui a l'air extrêmement cultivé, puisque vous disiez vous-même, Nadège, qu'il avait regardé attentivement Giorgione, Titien, Raphaël pour faire sa composition. Et en même temps, c'est un tableau qui a incroyablement choqué parce qu'il donne l'impression de ne pas être cultivé.
Oui, c'est en effet toute l'ambiguïté, le caractère équivoque que Manet a évidemment cultivé tout à fait exprès. C'est-à-dire qu'il fait pas, il rivalise avec la grande peinture, mais d'une certaine manière, pour la moderniser. Il est baudelairien, en le sachant ou sans le savoir. C'est-à-dire qu'il fait un tableau d'abord actuel. Ce vêtement qui était si laid, ce vêtement français si laid pour
le commentateur. Oui, c'est effectivement ce que disait l'un des commentateurs de l'époque tout à l'heure. Et c'était assez très drôle d'ailleurs. Qui était le vêtement de l'homme moderne tel que Baudelaire l'admirait d'une certaine façon.
Qui est même pour l'homme de droite, celui à la canne, non pas érigé, mais c'est un vêtement de dandy, avec cette sorte de toque tout à fait singulière, noire, en poil de on ne sait pas quoi. Donc c'est un vêtement moderne, et puis ce nu, est-ce qu'un nu peut être moderne? Est-ce qu'un corps nu peut être moderne? Je ne sais pas si un corps nu peut être moderne, mais une peinture de nu peut peindre ce corps d'une manière qui, elle, affronte la question de la modernité picturale.
Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez, Ariane, nous sommes passés d'une peinture des nymphes, puisque quand on pense à Giorgione, on pense à la poésie profane, à la poésie lyrique, donc qui sont là. Et on est passé de la peinture des nymphes à la peinture de Victorine Meurent. La représentation, ça change tout ou pas?
On a vraiment l'impression d'être aux portes de l'atelier. Il y a un truc à... Enfin, j'ai l'impression qu'il nous, c'est comme cette femme est comme une sorte de pas de main tendue, mais de peau tendue vers le spectateur qui nous fait rentrer dans le tableau comme
vous
ça.
Vous croyez qu'elle regarde le spectateur, le regardeur, ou est-ce qu'elle regarde le peintre en train de la peindre?
Les deux, sûrement. On est sûrement... c'est pour ça, peut-être, qu'on a aussi cette sensation de présence réelle.
Oui, présence réelle, oui.
C'est ça. Non, mais bon, enfin...
Non, mais...
Parce qu'il est, pas parce qu'elle est peinte différemment et parce qu'elle nous regarde comme ça, comme... subrepticement, elle nous fixe pas vraiment. Elle est dans un espèce de regard, si, elle est fixée, mais...
Mais elle n'invite
pas. Elle
n'est
pas complètement tournée vers nous, elle est un peu...
Il y a le regard de l'homme. On va essayer d'identifier tous les personnages tout à l'heure, qui ne regardent pas tout à fait dans la même direction qu'elle.
Le regard de l'homme est, au fond, moins difficile à affronter. Elle a un visage qui ne sourit pas. C'est la même année que Manet peint Olympia. Et Olympia regarde aussi. Je suis pas certaine. Enfin, si elle regarde le peintre, elle doit beaucoup s'ennuyer. Parce qu'elle a dû le regarder très très longtemps. Donc il faut au moins autant, je crois, imaginer qu'elle regarde tous ceux qui passent devant elle et qui la regardent non pas comme une peinture, mais comme un nu insupportable pour s'engosser. Mais enfin, d'abord, en les regardant.
Alors, on va écouter dans ce tableau étrange, il y a un des personnages qui est la jeune femme du fond, qui, je crois, sera la future femme de Zola. Et donc, je vous propose d'écouter à présent un des grands regardeurs de Manet, son ami. Il s'agit d'Émile Zola, qui lui consacre une très belle description. C'était en 1867.
Le déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet. Celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres. Mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d'arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise. Sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme qui vient de sortir de l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu, quelle indécence! Une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés, cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance est une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de 50 tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger le déjeuner sur l'herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d'art. Elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe au sortir du bain et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet. Lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Les peintres, surtout Édouard Manet qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout. Le sujet pour eux est un prétexte à peindre, tandis que pour la foule, le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du déjeuner sur l'herbe n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère. C'est cette chair ferme, modelé à grands pans de lumière, ses étoffes souples et fortes, et surtout, cette délicieuse silhouette de femme en chemise, qui fait, dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes. C'est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste. Toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis les éléments particuliers et rares qui étaient en lui. Émile Zola, Édouard Manet, études biographiques et critiques, 1867.
Donc nous sommes, lorsque Émile Zola écrit cela, 4 ans, presque 5 ans après la réalisation de ce tableau, je suis avec Ariane Michel et Nadège Lannery d'Agen et nous sommes en train d'examiner ce très beau tableau de Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Ariane Michel, est-ce que c'est un tableau qui est difficile à regarder? Est-ce que vous le trouvez agréable? Est-ce que vous le trouvez voluptueux? Est-ce que vous le trouvez sensuel? Est-ce que vous le trouvez rugueux, difficile? Comment est-ce que vous l'abordez?
J'aime me perdre dans ces détails, je crois.
Il y a beaucoup de détails, vous avez raison.
Et il y a comme un trajet du regard qui peut se faire, mais vraiment lent et parsemé d'indices, d'énigmes, de petites clés. Il y a une promenade qu'on peut faire au fond du sentier, un peu qui s'ouvre sur la gauche. Il y a une ouverture qui va vers une clairière un peu étrange. On a l'impression qu'il y a de l'eau vers le fond.
En effet, c'est pas très facile à voir.
C'est pas facile à distinguer. On est vraiment invité, je trouve, à rentrer dans le paysage. Alors qu'en même temps, il y a cette femme qui nous regarde évidemment et qui nous intimide un peu.
Et vous ne trouvez pas que la peinture est dure, la façon de faire le corps de cette femme, le lointain, c'était pas une peinture séduisante pourtant, si? L'eau est légèrement boueuse, l'herbe est à peine distinguée.
Vivante. Une peinture vivante.
Vous le pensez?
Peut-être, certainement. Voilà, et puis il y a un contraste assez saisissant entre la matière du paysage et la matière du corps.
C'est une peinture ou c'est de la peinture, à votre avis?
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue en vrai. Et donc, je suis très honnête avec vous, je peux pas vous rentrer dans cette considération si précise.
Alors peut-être revenons sur les indices que vous indiquiez, sans les énumérer, mais ce qui est déjà curieux, c'est qu'on a l'impression que c'est une peinture de nu, mais c'est aussi un paysage, c'est aussi une nature morte, c'est étrange d'avoir combiné tout cela. Nadège, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une combinaison inattendue, cet ensemble de choses.
Alors j'adore la façon dont Ariane Michel décrit ce tableau, c'est-à-dire que, alors que toute l'attention, finalement, presque de façon traumatique depuis 1863, s'est concentrée sur ce nu qui est évidemment présent et plus que présent. Il y a 1000 choses dans ce tableau. On peut faire, vous avez évoqué le terme de parcours. Et l'œil, en effet, se promène dans ce tableau. Il peut se promener vers la nature morte, qui est une chose somptueuse qu'on a parfois commentée. C'est assez bizarre, hein. Le tableau s'appelait Le Bain d'abord et pas Le Déjeuner sur l'herbe. Ce panier de pique-nique au fond renversé, tout le monde se moque de manger, hein, c'est vraiment la dernière chose qu'ils font.
C'est quand même des fruits qui vont pas dans la même saison, hein.
Alors en plus c'est un sacré collage, hein, parce qu'on peut parler de réalisme, mais j'ai rarement vu, peut-être autant aujourd'hui de la globalisation, c'est ça, des cerises et des figues ensemble. Oui. A priori, je ne sais pas grand chose à l'agriculture, mais ça ne va pas. Mais vous savez, même ce nu, c'est un collage, parce que le corps un peu dodu, replet, charnu, c'est celui de Suzanne, la femme de Manet, et puis collé dessus...
Je croyais que c'était Victorine Meurent.
Eh bien, c'est le visage. Mais c'est un collage d'un visage d'une femme et d'un corps d'une autre femme. Et puis, il y a en effet derrière cette femme là, qui sera la femme de
Vous voulez dire que, je m'excuse, parce qu'il faut revenir là-dessus, parce que ça va être très important, je suppose, dans le dénouement de la situation psychologique dans laquelle nous nous trouvons. Manet a... ce que vous me dites, c'est qu'il a peint le corps de Victorine Meurent et il a mis la tête de Suzanne dessus, ou le contraire?
C'est plutôt le contraire. Suzanne est une femme assez grasse.
Oui.
Je crois qu'on l'appelait la grosse Suzanne. Et Victorine, au contraire, est une femme très svelte.
C'est Victorine que nos auditeurs connaissent déjà dans l'Olympia, par exemple.
C'est la Victorine de l'Olympia, qui n'est pas une femme dodue. Et c'est son visage que l'on voit sur un corps qui est beaucoup plus probablement, beaucoup plus certainement, celui de sa femme. C'est assez singulier parce que la femme que l'on voit en arrière, en train de s'accroupir dans l'eau ou de retenir le drap, sur elle, au fond très pudique, sera la femme de Zola. Donc c'est en effet une drôle de situation aussi psychologique. Alors c'est une leçon de peinture, certainement, dans ce cas-là c'est la peinture, c'est un tableau, peut-être psychologique, et c'est une nature morte, c'est un paysage où on se promène.
Et dites-moi, vous dites il y a 1000 détails, alors donnez-en un qu'on sache. Faites-nous une surprise. Ah,
je sais où vous m'attendez.
Oui, n'en dites pas deux, on verra tout à l'heure.
On entendait des chants d'oiseaux.
Oui.
Le tableau qui est entièrement dans les verts, pour le paysage, vert, roux, jaune, mais vert principalement, est tenu comme par une clé de voûte, exactement au milieu, sur l'axe central, tout à fait en haut du tableau. Il est tenu par un petit, mais pas si petit que ça, oiseau. Et cet oiseau a la gorge rouge. Je crois que c'est un bouvreuil. Et ce bouvreuil rouge, sur le fond vert, c'est un, pour moi, de ces détails, mais en même temps, il est placé dans un lieu stratégique, encore une fois, comme la clé de voûte d'une voûte gothique, si vous voulez. Il est extrêmement important. Il est le début de la construction au fond d'un triangle.
Je suis persuadé qu'il a échappé à beaucoup de nos auditeurs qui ont vu le tableau ou qui ne l'ont pas vu. Ça ne saute pas aux yeux sur la reproduction. Il faut vraiment le voir en vrai pour voir ce point rouge surgir et créer effectivement une clé. Vous l'aviez vu? Vous le connaissiez, ce petit bouvreuil?
Je ne me souvenais pas de l'oiseau, non. Je l'ai retrouvé par la suite, parce qu'on en a parlé. Et je me souvenais plus de la grenouille dans le coin. En
Là, vous révélez un autre secret, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est, cette grenouille? Alors, il y a une grenouille, mais c'est un vrai bestiaire, votre déjeuner.
Ah oui, hein. D'animaux vivants aussi. Il n'y a pas seulement de la nature morte, il y a de la nature vivante. Et la grenouille qui regarde à l'extérieur du tableau, à gauche.
Oui.
Et elle est, peut-être parce que je suis petite, alors j'ai mieux vu en bas. Je ne sais pas. Et puis, j'ai pour habitude de me coucher par terre pour filmer. Je crois que ça doit être...
C'est une grenouille ou un crapaud?
Écoutez,
je ne sais pas, mais
il y a des grosses grenouilles avec des rayures comme ça. Les crapauds, je crois qu'ils ont plutôt, ils sont plutôt bruns avec des cloques sur le dos. Là, on a des rayures noires et vertes.
Oui, elle est sympathique, elle est plutôt plus claire. Ça peut être une grosse grenouille.
Ouais, ça peut.
Mais on dirait qu'elle a jailli du panier.
Oui.
Il y a les figues, les pêches, les cerises, et puis il y a la grenouille, et la grenouille, elle est tout à fait dans l'angle, et elle regarde, non pas le spectateur, mais elle regarde hors champ quand même. Et elle regarde on ne sait pas quoi. Et que vient faire cette grenouille-là?
C'est peut-être un prince charmant.
Bien sûr, c'est un prince charmant. Ou alors une princesse, plutôt.
Qu'est-ce que vous, qui êtes une spécialiste des... Forcément, quand on se passionne pour la Renaissance, comme vous l'avez fait dans votre vie d'historien d'art, on a l'habitude d'une iconologie. Alors, une iconologie, un sens, une symbolique de la grenouille?
Il y a une symbolique très ancienne de la grenouille et je pense que Manet s'en fiche éperdument. Je veux dire, la grenouille, le crapaud, c'est moins une... D'abord, ce sont les bêtes de l'enfer. Je crois que c'est vraiment pas la question de Manet. Ensuite, à l'époque de la Renaissance, pour Bernard Palissy, pour d'autres, on trouve des grenouilles, des lézards, des serpents, toutes sortes de bêtes qui vivent près de l'eau. Donc, c'est ça, d'abord, la grenouille. Il fait humide, on est dans un sous-bois, on est tout près de l'eau, c'est logique, il y a une grenouille. Mais ce sont des bêtes assez immondes, à nouveau, dans la Renaissance. Et c'est pas du tout, je crois, ce que veut dire Manet. Il y a ce poème, il est un peu plus tardif, je crois, mais à peine plus tardif, de Tristan Corbière, qui est dans Les Amours jaunes, où il se décrit, non pas en grenouille, mais en crapaud. Et il dit « Je suis laid comme un crapaud, je suis bas comme un crapaud, je suis drôle comme un crapaud ». Enfin, il ne dit pas ça tout à fait comme cela. Mais on n'est pas, je crois, dans l'ordre de la symbolique, on est plutôt dans l'ordre de la logique, on est, après tout, on est dans la nature, ben oui, il y a un crapaud. Et puis, peut-être, ça porte quand même une forme d'imaginaire. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que ce crapaud, il est surtout celui qu'on mérite de voir ou pas, et ça ne m'étonne pas que vous l'ayez vu, vous l'artiste.
Ariel Michel.
Moi, je pense que c'est la bande sonore du tableau, le crapaud et l'oiseau.
Oui.
Je crois que c'est une manière de nous laisser entendre le bruit des crapauds qui sont là, peut-être dans ce sous-bois, et des grenouilles qui chantent, et puis des oiseaux.
Est-ce que le croissement du... Qu'est-ce que ça fait, un crapaud? Ça croise?
Alors, un crapaud, ça chante divinement bien,
oui, mais
souvent.
C'est quoi le mot?
Je ne sais pas.
J'aime mieux chanter. De toute façon, c'est si beau.
Oui.
Je peux vous le faire, si vous voulez.
Je vous en prie. Vous êtes chez vous, vous pouvez
un halite, par exemple, un halite sonneur, je crois, ou un crapaud sonneur, c'est... Ouh, ouh, ouh. C'est hyper délicat, en fait. Oui, et la grenouille est beaucoup plus croissante.
Quoi,
oui, aussi. C'est plutôt les grenouilles. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un pire. Non, mais il y a plein de...
Bon, notre émission devient très étrange. Écoutez, je vous propose d'écouter à nouveau Zola chanter. Cette fois-ci, un extrait de son roman intitulé « L'œuvre », dans lequel il décrit un tableau de son héros, le peintre Claude Lantier, qui, comme nous le savons, ressemble étrangement à Manet et au tableau de Manet, surtout.
Un long silence se fit. Tous deux regardés, immobiles. C'était une toile de 5 mètres sur 3, entièrement couverte, mais dont quelques morceaux à peine se dégageaient de l'ébauche. Cette ébauche, jetée d'un coup, avait une violence superbe, une ardente vie de couleur. Dans un trou de forêt, aux murs épais de verdure, tombait une ondée de soleil. Seul, à gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec une tache de lumière très loin. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête enflant la gorge. Et elle souriait, sans regard, les paupières closes, dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, deux autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant, détachaient parmi les vers des feuilles deux adorables notes de chair. Et comme au premier plan, le peintre avait eu besoin d'une opposition noire, il s'était bonnement satisfait en y asseyant un monsieur, vêtu d'un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche, sur laquelle il s'appuyait dans l'herbe. Émile Zola, L'œuvre, 1886.
Ariel Michel, nous écoutions L'œuvre et j'ai remarqué que Zola insistait sur cette main gauche qui passe derrière le corps de Victorine Meurent. Et est-ce que vous l'avez remarqué ?
J'ai plutôt été frappée par les jambes.
Qui se
mélange et il y a une ambiguïté bizarre. On ne sait plus très bien laquelle est à qui. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, elles sont très entremêlées, quoi. Donc
Est-ce qu'il y a une histoire de famille dans tout ça, Nadège, Lanéry, Dagen ?
S'il y a une histoire de famille, elle est un peu compliquée. Plus tard, Manet parlera de ce tableau en parlant de parties carrées. C'est aussi une partie, si je puis dire, très intime. J'ai dit tout à l'heure que le corps était quand même celui de son épouse, le visage celui de Victorine, son modèle aimé. Mais en même temps, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que les rapports de famille sont plus ou moins incestueux. Enfin, c'est une histoire extrêmement compliquée, en effet. Et puis, il y a derrière, au fond, cette autre femme qui sera liée charnellement également, au moins à Zola.
Mais qui était auparavant un modèle assez connu des peintres, au fond. Elle avait posé à de nombreuses reprises pour plusieurs peintres de l'entourage de Manet, je crois.
C'est cela. Ce sont loin d'être des déesses. Ce sont des hommes et des femmes, et non des dieux et des déesses, des morceaux de vie moderne, réels, qui sont incrustés dans une sorte de tableau. Comme au fond, ce que vous décriviez, c'est-à-dire ce tableau vivant de la forêt et de ses bêtes, avec des gens qui font intrusion dedans. Et cette forme de collage, au fond, fait partie, je crois, de notre stupéfaction persistante devant cette peinture.
Alors, il y a un geste qui est quand même très fort dans le tableau, qui est le geste de l'homme, qui est donc Eugène Manet, le frère du peintre, qui semble désigner, on ne sait pas très bien si c'est Victorine ou au contraire le compagnon de Victorine, qui est en fait ou le frère, ou le beau-frère, ou le fils de Manet, selon les interprétations.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bavarde et qui accompagne sa parole de son geste. Je trouve ça assez frappant parce qu'on a l'impression que tous les personnages du tableau se taisent. Sauf peut-être celui-là qui bavarde. Enfin, en fait, les hommes bavardent, la femme se tait et nous regarde. Les animaux font de leur bruit, mais ils sont surtout connus pour être mutiques, enfin, d'un point de vue de parole. Quand je disais tout à l'heure, un ange passe dans ce tableau, j'ai la sensation que c'est quand elle nous regarde, pleine de lumière, cette femme là au milieu de cette scène, c'est comme ce moment où il y a des silences dans des conversations un peu mondaines ou un peu à table justement, et où les gens sont un peu gênés,
oui.
Et où tout à coup on peut entendre la mouche voler et on est juste là, présent, dans un instant.
Ce qui permet peut-être de revenir à la main dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire pendant que l'un, l'homme à la canne, parle, en face de lui, il y a deux corps quand même qui n'ont pas envie de parler, deux personnes qui n'ont pas envie de parler, mais plutôt de se taire et de se rapprocher. Il y a dans cette main qui déborde un peu, contre la cuisse nue de la femme, il y a une pression, une intimité, qui suggère davantage. Un ange passe. Il vient de se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et peut-être que le troisième personnage de ce trio de l'avant n'a pas encore perçu et il continue à parler. Comme peut-être la grenouille continue à chanter.
Quoi, c'est ou chanter, ouais.
Je voudrais que vous reveniez sur cette histoire du bouvreuil, ce petit oiseau à plumes rouges sur la gorge, n'est-ce pas, qui apparaît au centre. Et au fond, Nadège, est-ce que ce n'est pas une figure, l'oiseau qui plane normalement au-dessus d'une rivière, en général, c'est le Saint-Esprit pendant un baptême.
Manet ne peut pas ne pas le savoir. Pour autant, est-ce qu'il faut trouver au bout de Freud une signification religieuse, symbolique? Ça, je ne le crois vraiment pas.
Mais est-ce que, vous savez, il y a des baptêmes qui ne sont pas religieux.
Bon.
Il y a des immersions qui ne le sont moins.
Alors, c'est un rite d'initiation.
Oui, par exemple.
Païen.
Ce peut être aussi un retournement un peu drôle de ce qui était un système iconographique que les peintres ont depuis toujours utilisé d'abord comme un système pictural. Une colombe, c'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est un oiseau qui est blanc, qui est gris et qui est magnifique à peindre.
C'est aussi de la peinture, c'est ce que
c'est
vous
d'abord
dites.
Aussi de la peinture. Il y a un autre tableau de Manet qui le représente avec sa femme et son fils, ou pas son fils, mais peu importe. Ils sont dans un jardin. Manet arrose vaguement des fleurs. Et puis au premier plan, il y a un coq. Et quelque chose qui ressemble à un canard ou à une poule, et puis encore quelque chose qui est peut-être une fleur jaune ou un poussin, et puis on ne sait pas très bien. Le canard, on ne sait pas très bien, et le coq, on sait que c'est un coq parce qu'il est orange et rouge. Mais c'est d'abord une tache de couleur au premier plan, orange et rouge. Par ailleurs, c'est un coq.
Pardon, je m'en excuse par avance, je vais réduire la signification à une interprétation, et au fond, je pense que le rôle de l'art, c'est justement de ne pas faire ça. Donc j'abîme un peu le tableau, mais je lisais dans un dictionnaire d'argot il y a quelques jours que bouvreuil, ça voulait dire ouvre l'œil. Qu'est-ce que ça évoque chez vous?
Alors,
Ariane Michel peut-être. Ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeux de mots dans un tableau?
Ben, on peut forcément les lire comme ça. Et puis, même d'un point de vue purement psychanalytique, il y a des choses qui s'échappent de la pensée même inconsciente de celui qui peint ou qui représente. On peut rétroactivement toujours faire des trajectoires verbales dans des œuvres dont on n'a même pas forcément eu envie. Enfin, bon,
Nadège,
oui.
Déjà.
Oui, les jeux de mots.
On peint aussi avec le langage.
On peint aussi avec le langage. Une chatte tout près d'une femme nue. Au fond, le chat d'Olympia est-il une chatte? Ça, je ne sais pas. Mais enfin, ça a un sens. Et dans une note d'un article, d'une monographie sur le déjeuner sur l'herbe il y a 20 ans, on trouve la référence sans précision que la grenouille, c'était... pourtant, moi, je connais les grenouilles de Bénitier. Eh bien non, c'était le surnom des prostituées. Donc, vous voyez, ouvre l'œil, prostituée, oui, ça peut être un réseau de jeux de mots, de jokes.
Alors, on est quand même dans une situation où on a une scène qui est construite comme une scène traditionnelle de peinture qui représenterait un baptême, dans lequel il n'y a rien de religieux, avec un oiseau qui plane et qui semble dire qu'il faut regarder tout en détail, un prince charmant transformé en grenouille, qui n'est pas un prince charmant, mais peut-être le diable ou une prostituée, une famille qui est enfin rassemblée, dans lequel le frère de Manet, Eugène, qui fut l'amant de la femme de Manet, et son fils qui est peut-être le fils de son frère, donc son neveu, et qui présente lui-même comme son beau-frère en général. Ça se complique quand même l'affaire. Alors, la question que je vais vous poser, Ariane Michel, c'est un tableau, quand ça s'interprète, il y a tout un ensemble de clés et de sens, et je suppose que l'artiste en train de peindre pense à cela, puis pense à autre chose, et rajoute ceci et cela, élargit lui-même son horizon lorsqu'il est en train de travailler. Quelle est l'importance de la signification intentionnelle d'un tableau par rapport à son ouverture? Est-ce que, au fond, vous, artiste, ou un artiste comme Manet, nous amène au bord du sens, ou est-ce qu'il nous amène jusqu'à la signification?
Mais sur les bords, il y a beaucoup plus de polysémie, donc évidemment. Et puis, si la signification devait être étalée, il suffirait d'écrire peut-être la liste de ce qu'on veut dire. Enfin, moi, ce tableau me fait penser à des sorcières. Non, mais j'ai envie de vous pas. Non, mais en fait,
dans le Grand Albert, et je crois que Manet habitait rue Grand Albert, il y a une recette de sorcière à partir de langue de grenouille.
Oui, c'est ça. Non, mais cette femme est très forte au milieu. Elle tient tout le monde autour d'elle.
Ah oui, oui.
Et elle diffuse une lumière au milieu de la forêt. Et autour d'elle, tout est accordé quand même pour être là. Et j'ai l'impression, avec cette histoire de rituel et tout ça, peut-être que, je sais pas moi, inconsciemment, ça fait penser à, oui, peut-être une sorte de rituel païen, pourquoi pas, sorcier. Moi, je pense aux écoféministes qui ont fait des... Enfin, je sais pas, ça me traverse. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment et puis auquel on pense, mais à ces femmes aux États-Unis qui ont décidé de réorganiser la domination du monde, la domination masculine, dans leur système qui serait une domination... Non pas une domination, mais une reprise de pouvoir par les femmes, en passant par une relation poussée aux éléments de la nature. Bon, j'en parle pas bien, là, mais parce que j'essaye de dire plusieurs choses en même temps.
Comme Manet, à mon avis. J'essaye aussi de dire plusieurs choses en même temps,
mais,
au fond.
Oui, ce Bouvreuil, pour moi, il est quand même... ce qui est très beau dans le corps de cette femme est très étrange, c'est qu'il n'y a aucun téton sur les seins, on ne voit aucun entrejambe, rien, c'est que de la peau. Et le Bouvreuil, c'est l'ouverture... au milieu de la femme, quoi. C'est vraiment un truc. Enfin, c'est comme s'il y avait des éléments qui étaient comme ça dispersés, mais des éléments de force.
Ça nous rassemble aussi vers la question du collage dont vous parliez. On a l'impression d'un collage éparpillé presque. Est-ce que vous voyez ça comme ça, Nadège, déjà?
Oui, je crois en effet que la polysémie va avec cette idée du collage, l'importance de ce qui se passe autour avec l'importance de ce qui se passe au milieu. Et puis au fond, je dirais que c'est une énigme qui, parce qu'elle n'a aucun sens arrêté, en a de multiples. À chacun de trouver sa voie. C'est d'abord un morceau de peinture. En cela, je dirais que, je crois qu'au fond, Manet est exactement comme Giorgione, comme Titien. Il est comme, je pense à La Tempête, on a écrit des livres et des livres pour savoir ce que voulait dire ce tableau de Giorgione, qu'est La Tempête. Et puis finalement, peut-être que, justement, il n'y a rien à trouver parce qu'il n'y a pas de sens. Et c'est un nu, regardé par un homme, par un page très joliment vêtu, dans un paysage. Et là, le moment est électrique puisqu'il y a un éclair. Eh bien, peut-être, et j'en suis convaincue, c'est d'abord de la peinture et ça n'a pas de sens. Et par là, ça a mille sens que le regardeur trouve.
Je trouve ça très convaincant comme expression. D'ailleurs, je pense que les très grandes œuvres sont des machines à produire pour ceux qui les regardent des sens infinis. Alors, écoutons donc un extrait du livre d'Hubert Damisch, un livre de 1992, très beau, qui s'appelait Le Jugement de Paris, dans lequel celui-ci met en avant, pour le déjeuner sur l'herbe, le principe moderne dont vous parlez, Nadège, du montage ou du collage.
À la différence de tant de tableaux dans lesquels l'émotion que peut éveiller chez lui, la vue d'une nudité féminine en peinture est pour ainsi dire représentée dans le tableau lui-même, par le détour des voyeurs mâles que celui-ci met en scène. La femme du déjeuner sur l'herbe, à l'instar de l'Olympia, mais selon des voies strictement inverses, tient purement et simplement le spectateur à distance, sinon hors circuit, en lui retournant son regard, mais lui refusant, du même coup, toute possibilité d'identification avec les personnages représentés. La transformation opérée par Manet serait donc à faire moins de pause que de découpage ou de montage, sinon de collage. Hubert Damisch, Le Jugement de Paris, 1992.
Nous sommes toujours sur France Culture et nous examinons ce chef-d'œuvre d'Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. Je suis avec Ariane Michel, artiste, et Nadège Lanéry-Dagen, historienne de l'art. Et nous rentrons dans les complexités de ce tableau qui avait l'air si simple, quelques couleurs dans un certain ordre dispersées. Et on se rend compte qu'il y a des significations multiples et que peut-être qu'il faut en rester à la peinture. Nadège Damisch parle des références anciennes de ce tableau, Giorgione, Titien, de cette sorte de montage avec l'histoire, Le Jugement de Paris. Mais en fait, quand on pense à cette gravure de Raimondi dont s'inspire Manet, il n'a pas pris le sujet principal, Le Jugement de Paris justement, mais le sujet marginal, trois corps distraitement sur un côté, comme s'il voulait éviter un sujet important et préfère avoir un sujet qui donne l'impression à premier regard d'être anodin.
En effet, il ne s'agit surtout pas de faire une peinture mythologique, une peinture référencée. Il s'agit de transposer ce type de peinture dans une situation profondément moderne. De la même manière, au fond, quand Courbet fait peint l'enterrement à Ornans, au fond, c'est pas si différent que ça, fait une immense peinture d'histoire avec des personnes qui ne sont personne, qui sont des anonymes. Il n'y a pas une vraie histoire. Donc, il faut cacher les références. Il ne faut pas qu'elles soient trop importantes. Il faut qu'elles ne soient pas reconnues, en fait. Mais surtout, il faut qu'elles ne soient pas pesantes.
Ariane Michel, vous vouliez réagir ?
Je crois que c'est ce que j'aime beaucoup dans ce tableau. C'est qu'il n'y a pas d'alibi mythologique et qu'on se retrouve dans une scène au présent, dans un présent énigmatique et où on peut se perdre un peu.
Est-ce que c'est une décrépitude dans l'art, dans l'histoire de l'art, ce tableau ? Pour reprendre l'expression étrange de Baudelaire, qui disait « Vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art. »
C'est très beau.
C'est très beau, mais c'est très paradoxal. Donc on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire vraiment.
L'incarnation, peut-être, de quelque chose. Quand on s'incarne, on rentre dans ce processus de décrépitude.
L'incarnation dans la modernité, qu'est-ce que vous en pensez, Nadège ?
Je pense que c'est beau parce que c'est une phrase qui, au fond, a-t-elle un sens si fort ? Je ne suis pas si sûre qu'elle ait un sens si fort. C'est précisément parce qu'elle peut dire ceci et son contraire.
On sait que Manet n'a pas très bien compris lui-même ce que Baudelaire voulait dire.
Il est au terme d'une tradition, c'est certain, et il en fait quelque chose de tout autre. Donc en effet, il est à la fin d'une tradition, il a tous les moyens techniques, y compris, et toute la culture grande des peintres anciens, et c'est exactement ce qu'il ne veut pas faire. Au fond, Picasso sera dans la même situation quand il expliquera plus tard qu'il a mis des années à oublier ce qu'il avait appris de son père pour redevenir un enfant.
Picasso qui a fait une longue série sur Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, justement, qui est un des artistes qu'il admirait le plus et dont il a repris beaucoup d'œuvres.
Mais il n'a pas repris l'oiseau et il n'a pas repris la grenouille dans ses variations sur Le Déjeuner sur l'herbe.
En effet, oui. Donc, vous pensez qu'il a raté l'essentiel ?
Ah, je ne sais pas. Non.
Qu'est-ce que vous pensez de cette étrange idée qu'on peut être le premier en venant après tout le monde ? Au fond, c'est ce que dit Baudelaire. Quand il dit « vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art est arrivé à un maximum, il ne peut plus que se décrépir parce qu'il va devenir moderne et autre chose, et vous serez le premier ». Est-ce qu'on vous venez après, vous faites de la vidéo, vous venez et du cinéma et vous venez après tous ceux qui ont fait des images fixes, tout ça vous le portez en vous et vous êtes dans une tradition qui est en train de s'inventer, elle n'a que 15 ans.
Oui, je comprends pas. En fait, je comprends pas très bien la question.
Mais peut-être que je ne sais pas très bien la prononcer.
Ouais, mais non, je la perçois très loin, très.
Est-ce qu'on tire avec soi le poids de l'histoire du visible quand on fait une œuvre qui est d'une toute autre technique et d'une toute autre tradition qu'on réinvente quasiment au moment où...
Bah oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, on est pris de toute façon dans son imaginaire qui est farci de, pardon, mais qui est tapissé de ce qu'on a vu, de ce dont on est le produit, de l'inconscient, de la société dans laquelle on vit. Voilà, du fameux musée imaginaire qu'on partage avec les autres.
Comme après, un héritage énorme, on a un héritage énorme, qui est de plus en plus vaste.
Bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il s'agit, quand on se met au travail, de tout oublier, bien sûr. À un moment donné, d'être soi-même en relation avec ce qu'on est en train de faire. Et, en simplicité, quoi.
Vous savez, Nadège, que le tableau qui a eu du succès cette année-là, c'est celui qui a été acheté, c'était la Vénus de Cabanel, c'est un peu différent. Qu'est-ce que c'était la Vénus de Cabanel par rapport au nu de Victorine Meurent dans Le Déjeuner sur l'herbe ?
Finalement, c'est beaucoup plus lascif. C'est une Vénus en rose et bleu ciel avec des petits anges qui volettent. Donc c'est une Vénus mythologique. C'est une Vénus, justement, c'est pas une Olympia.
Mais elle n'était pas moins nue que celle que nous regardons.
Eh bien, elle est d'autant moins nue qu'elle montre son pubis, c'est que son pubis est glabre. Le fait, y compris que Suzanne Victorine, enfin que ce nu ne montre pas son entrejambe, vous avez une jolie expression, Marianne, en disant on ne voit rien et en même temps l'oiseau là-haut qui ouvre les ailes ouvre ses jambes. Et cet oiseau tout palpitant, tout chaud et tout plein de plumes, et pas de poils bien sûr, il dit des choses bien plus basses, basse au sens du crapaud, qui est tout en bout de la grenouille, qui est tout en bas et qui regarde, bien plus humide au sens des humeurs que la propre Vénus de Cabanel.
Vous pensez que ça n'a pas échappé à l'époque ?
Ah, ça n'a certainement pas échappé à l'époque.
C'était pas seulement cette jeune femme pas idéalisée, n'était pas seulement la grisette que chacun des bourgeois allait voir.
C'est pas la grisette, c'est la prostituée. D'une certaine manière. Ou c'est pas la prostituée, c'est la femme libre. C'est celle qui décide. Et c'est pire encore que d'être grisette ou prostituée. Elle n'a pas besoin d'argent, la femme qui pique-nique là. Elle décide de ce qu'elle fera de son corps. Elle décide qu'elle va avoir la maîtrise de ce corps au point de le mettre à nu devant des hommes et au fond de narguer leurs désirs, parce que c'est exactement cela. La Vénus de Cabanel, elle naît de la mer. De la mer M-E-R, bien sûr.
Elle est, quand vous entendez Nadège dire « elle décide », vous pensez, Ariane, que c'est l'explication de son regard très impérieux ?
C'est en tout cas la sensation qu'elle donne avec ce regard. Moi, elle me fait penser à... Excusez-moi. Elle me fait penser à une campagne publicitaire que mon père avait faite dans les années 80, qui était Marianne. Le 2 septembre, j'enlève le haut. Le 15 octobre, j'enlève le bas. Et qui est une femme qui s'était mise nue devant tout le monde dans une période qui était quand même... où le corps de la femme était... c'était un grand enjeu dans la publicité. Et cette femme se retournait au moment où elle enlevait son bas.
C'était Dauphin, l'afficheur qui tient ses promesses.
Voilà, mon père, Philippe Michel, donc, qui était publicitaire, qui avait fait ce projet. Et bon, je ne peux pas m'empêcher de... Bon. Mais elle me fait vraiment sincèrement penser à celle-ci. Mais c'est juste parce que dans le contexte sociologique dans lequel elle est tombée, elle a dû faire un peu le même effet. Enfin, disons que les publicitaires se sont certainement inconsciemment inspirés de ce tableau même, de Manet, peut-être de l'Olympia aussi. Mais voilà.
Elle dévoilait, exactement, votre père dévoilait, sauf que le jeu était qu'on ne voyait plus que ses fesses, donc on était...
Voilà.
Mais elle dévoilait, c'est-à-dire qu'au fond... Le fait d'utiliser Raphaël, Raimondi, Giorgione, c'était montrer que même la mythologie, même les belles peintures du Louvre, au fond, c'était ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'on croyait être une délectation visuelle, esthétique, un plaisir de l'œil, était un plaisir lascif.
Dites-moi, c'est pas du tout... On parle souvent de Manet, probablement, je pense que cette erreur a été corrigée par l'historiographie, mais comme un des impressionnistes. On n'est pas dans une peinture de plein air, on a l'impression d'être dans un théâtre, tout a l'air artificiel, c'est un décor.
C'est une peinture d'atelier. On pourrait même dire que cette femme, dont je vous accorde qu'elle est merveilleusement touchée par la lumière, n'est certainement pas touchée par une lumière
de la nature,
de sous-bois de nature.
Donc on est dans une alcôve, réellement.
On est dans un tableau, dans le tableau, on est dans un dispositif d'artifice. Et la peinture est d'abord un artifice. C'est comme ça qui, je veux dire, au fond, voir une femme se déshabiller n'est pas forcément une situation émotionnelle très forte. Voir une femme mettre en œuvre son déshabillage, mettre en scène son déshabillage, devient une situation beaucoup plus forte. Et peindre une femme qui est vraiment toute nue, et pas qui est un nu mythologique, est dans un décor, parce que cela, le sous-bois est au fond un décor, c'est au fond comme si une vraie femme entrait, venait s'incruster dans un tableau de musée. Et à nouveau, on revoit le collage et l'effet qu'il produit.
Presque un montage, en fait.
Un montage.
On pourrait dire, oui. Vous ressentez ça, Ariane Michel ?
C'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de les portes de l'atelier. C'est-à-dire que on avait cette femme qui était dans cette lumière d'atelier, de cette lumière très proche de nous, et en même temps toute cette obscurité autour d'elle, comme ça. Voilà, c'était... Oui.
Alors, on est vraiment en train de regarder un tableau à clé dont la machine, telle que vous me la décrivez, est faite pour ne pas tout à fait révéler ce que le corps révèle. Une femme qui est désirable, mais peinte quand même pas d'une façon extraordinairement lascive. C'est quand même une peinture un petit peu rêche. Et puis, comme vous le disiez, au fond, assez pudique. L'ouvert n'est pas là où on l'imagine. Et cette peinture... Est-ce qu'elle annonce vraiment, bien que ce soit le même modèle, est-ce qu'elle annonce vraiment la révolution qu'a été l'Olympia, ou est-ce que c'est un tableau qui est comme celui de ses amis de l'époque, comme Courbet, par exemple? Est-ce que ça répond à Courbet, par exemple, Nadège? Parce que dans la baigneuse que l'on a au fond, c'est un Courbet.
Oui, la réponse. Mais vous pourriez dire aussi, est-ce que il y a entre l'origine du monde et Olympia une réponse? Est-ce que ces tableaux sont faits pour se répondre mutuellement? Je pense que ils sont faits. On est dans des tableaux quand même qui sont liés au nu pornographique, au nu de la photographie. Dès que la photographie est apparue, des images obscènes de femmes se déshabillant, de femmes très déshabillées, de femmes montrant leur sexe, de femmes nues sans les oripeaux de la mythologie, ont été entre les mains, pas seulement des peintres d'ailleurs, mais aussi des amateurs de peinture, qui très vite étaient des amateurs de photos.
Mais
je dirais qu'ils répondent au même problème.
Ce n'est pas la première femme qui nous regarde. Pensez par exemple à l'Odalisque d'Ingres, nous regarde aussi.
Oui, mais elle est parfaite, cette Odalisque d'Ingres. Et elle est dans un décor exotique dans lequel nous ne pouvons pénétrer.
C'est pas le même regard, ou c'est pas la même réalité de corps.
C'est un regard dans le cas de l'Odalisque, c'est un regard dans le cas de la Vénus de Titien qui au fond est l'inspiration détournée de l'Olympia. Ces femmes vous regardent, ces femmes regardent le spectateur, mais elles le regardent avec douceur et acceptation. Il y a, me semble-t-il, encore davantage dans l'Olympia que dans Le Déjeuner sur l'herbe, il y a une maîtrise du regard qui est plutôt un affrontement qu'un doux accueil.
Merci pour ce doux accueil pour terminer notre émission. Merci, chère Nadège. Merci beaucoup, Ariane Michel.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé le célèbre Déjeuner sur l'herbe, peint par Édouard Manet en 1863, et aujourd'hui conservé au Musée d'Orsay à Paris. Pour en parler, nous étions en compagnie de l'historienne de l'art Nadège Lanéry-Dagen et de l'artiste Ariane Michel. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, préparé par mon attaché d'émission, notre attaché d'émission, et du site internet Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes, Jean Auquetrel. À la technique, Pierre Mine. Et réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et de Jean Deloisy. Et dans quelques instants, Catherine Libère et Ville Monde.
Come before you go, babe. until you go back. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go.